pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 185. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça, parce que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on ne sait pas parler. Benji, moi, si on se parle régulièrement, on s'envoie des bons mots.
Voilà, on discute sur Signal, mais de vive voix, on n'a pas parlé depuis l'enregistrement du gravage dans le vent des blockbusters.
On s'est appelé, je crois, une fois, mais c'est...
peut-être bien.
Mais voilà, c'est tout. Mais tu vois, on ne peut pas se dire, par exemple, là, tu vois, sur mon bureau, les trucs importants, j'ai le dernier livre d'Aurore Berger.
Ah, ça doit vraiment être important, oui.
Nos combats pour la République. Et je ne sais pas comment il est arrivé là et surtout comment il a fait pour rester là pendant un mois sans bouger.
Mais comment il est arrivé de la poubelle jusqu'à ton bureau, c'est la question.
C'est un cadeau de... Je crois que c'est ma meuf qui me l'a ramené. Écoute.
Oui, donc c'est... Comment il est arrivé de la poubelle de ta meuf à ton bureau, c'est la question.
C'est presque le gag, quoi. C'est du genre, je sais que c'est de la merde et c'est pour toi.
D'accord, bah écoute.
Écoute, chacun son truc. C'est nul, hein. Je pas te.
Oh, bon, voilà.
Mais tu peux.
Colore-moi surpris, comme on dit.
Peut-être que tu n'es pas au courant parce que t'es pas en France, mais en ce moment, on a accueilli quand même la présence d'un nouveau philosophe. À la fois aisé en termes d'argent parce qu'il est fils de riche, et à la fois avec un talent, j'imagine, monstrueux, c'est Louis Sarkozy.
Oh, malheureusement, je l'ai vu passer.
Tu l'as vu passer?
Bah, c'est-à-dire que je suis un petit peu quand même les actualités françaises et oui, ça a été dur de ne pas le voir, en fait, cet énergumène.
Un livre qu'il a sans doute écrit avec son conseiller.
Oui, et puis il en a vendu quoi, 300 copies maximum ou un truc comme ça.
Alors, mais ça, c'est un truc connu. C'est genre, quand t'écris un livre politique, ne t'attends pas à en vendre beaucoup. Il y a que...
Ouais, mais c'est un livre sur Napoléon. C'est pas censé être un livre politique.
Oui, mais bon, évidemment, quand tu fais un livre comme ça, en fait, tu dresses ton portrait ou alors celui de papa. Hein, c'est possible aussi.
Non, mais surtout, qui a envie de lire un livre sur Napoléon écrit par petit Louis Sarkozy? Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qui va apporter d'intéressant qui n'a jamais été écrit par des vrais historiens, déjà, c'est la question, quoi.
J'ai envie de dire bonne chance Bonaparte.
Bonne chance mon papa.
Ouais, bonne chance Bonaparte, c'est
bonne
les
chance
mêmes,
Bonaparte.
C'est la même, c'est les mêmes pieds, donc c'est pas mal, ça rend bien.
Ouais, ça marche, ouais.
Benji, tu m'as manqué.
Eh ben toi aussi, Daniel. Et
tu m'as manqué.
Tu sais que j'ai été plutôt malade en fait ces dernières semaines. Alors l'enregistrement du dernier épisode de La moto de qui déjà, car oui, nous avons terminé la saison 2 de La moto de qui déjà, a été un peu sportif parce que oui, il y a 4 semaines. Mon épouse passait son troisième dan aux arts martiaux et donc j'y étais pour la soutenir et puis pour participer aussi, pour encadrer un peu.
Mm-hmm.
Et dans les jours qui ont suivi, quasiment tout le monde est tombé malade, donc ça a été assez, assez violent. Et dans mon cas, ben, ça fait plusieurs semaines que j'ai une toux atroce. Alors, c'était potentiellement viral à la base. Et puis, là, dans ma dernière discussion avec ma toubib, elle m'a dit, bon, c'est quand même rare qu'un virus fasse tousser pendant aussi longtemps, surtout si vous avez fait un test Covid négatif. Donc, elle a supputé que ça avait évolué en infection. Et donc, je suis sous antibio et ça a l'air de marcher. Je tousse beaucoup moins. Donc, écoute...
C'est un peu radical, les antibios. Mais bon, oui, quand t'as pas de choix, vas-y, quoi.
Voilà, comme on dit, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais quand il en faut, ben, t'es bien obligé d'en prendre. Donc là, jusqu'ici, ça va. Je n'ai pas encore trop toussé de la journée. Je touche du bois, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça a été un peu violent les dernières semaines.
À chaque fois qu'on commence par parler de nos santé, j'ai ma meuf qui me dit, mais... C'est un podcast de vieux à chaque fois. Si je t'ai parlé de ma rupture de ligaments. Et je ne sais même pas si j'ai parlé de ma rupture des ligaments ici.
Dans After Eight, je ne pense pas que tu en aies parlé. Mais tu sais, une rupture des ligaments ou une toux violente, ce n'est pas un problème de vieux.
Oui, c'est vrai.
Ça reste quand même un truc qui peut arriver à tout le monde.
Et du coup, j'ai une opération qui se profile à l'horizon si je ne veux pas rester dans cet état toute ma vie, quoi.
Et comment t'es-tu fait cette rupture des ligaments, alors, si tu veux en parler?
Accident de ski, tout bêtement. Accident de ski, en plus, petite chute. Mais quand même arrivée violente et j'ai besoin de genre 2 minutes pour souffler pour me relever. Je me suis relevé et là tout d'un coup je fais waouh, et c'était que sur les torsions évidemment, mais je m'en rendais pas trop compte sur le moment parce que c'est très intense.
Ouais.
Et en fait la douleur, ça ça va en s'intensifiant, hein, tu vois. Tu prends ensuite des antidouleurs, ça calme, et puis après, ouh, ça redevient. Ça revient, et puis, bah, écoute, je vis avec, et ça va, je vis avec, je sais que je peux pas courir.
D'accord.
Quand mon fils part au bout de la rue, je sais que je pourrais pas physiquement courir le chercher.
Pour le rattraper.
Mais.
Ça va marcher quand même.
Comment?
T'arrives à marcher quand même.
Ah oui, j'ai aucun problème pour marcher. D'accord. Et ni pour monter les marches, c'est ce que j'ai fait, ni pour conduire, puisque c'est ce que j'ai fait au Japon, figure-toi.
Ouais.
J'ai débloqué. Alors, j'ai beaucoup de choses à rattraper, je vais faire très vite les choses. Au fur et à mesure, j'ai débloqué une aptitude, tu vois, sur mon tableau des capacités du RPG de ma life.
Sur ta fiche de compétences.
Sur ma fiche de compétences, désormais, il y a conduit au Japon.
Donc, conduit à gauche.
Conduit à gauche. Écoute, tous ces voyages, ces dizaines de voyages au Japon, j'ai jamais conduit. Mmh. Et là, je me suis dit, allez, ça y est, il y avait le petit et tout, et je me suis dit, on va faire ça.
Vous avez loué une voiture ?
J'ai loué une caisse. Et alors, louer une caisse au Japon, c'est comme prendre l'avion intérieur. Et prendre l'avion intérieur, c'est comme prendre le bus. C'est-à-dire, c'est très, très simple. Tout est vraiment très, très simple. Il n'y a aucun problème. Et tu sais, tout ce genre de problème que tu peux avoir, par exemple, quand tu cherches la dernière station d'essence avant de rendre la voiture, ce genre de truc. Au Japon, on t'a prévu la carte. T'as la carte de l'endroit où tu vas le rendre et ils disent, ah voilà, et là vous le rendez là et là vous avez les stations d'essence. Enfin, tout est expliqué. Il y a juste le GPS que j'ai jamais essayé de faire marcher parce que mon téléphone fonctionnait très bien. Mais voilà, sinon, c'était vraiment une expérience assez cool. Surtout qui m'a permis d'aller dans des endroits très reculés et tu vois aussi de faire des vacances plus spontanées, c'est-à-dire m'arrêter quand je voulais, si la vue était bonne, et c'est ce que j'ai fait.
Ouais.
Ou alors si, par exemple, tout d'un coup, il y avait une plantation de fraisiers, et hop, tu peux te balader dans la plantation de fraisiers. J'ai visité un qui avait All You Can Eat pour 2000 yens, donc 10-12 euros.
Oui, oui.
Et c'est All You Can Eat.
Ça fait 10 dollars, ouais.
Tu peux rester dedans, et tu peux t'empiffrer de fraises jusqu'à ta mort. Hein, voilà. Et c'était vraiment très, 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 très satisfaisant. J'avais juste précisé, et ça c'était dans Sumimasen, parce qu'on a enregistré Sumimasen entre-temps, on a été malheureusement obligé d'écourter pour des raisons personnelles et familiales l'épisode. Et en fait, pile quand on est rentré à Tokyo, il a fallu changer les billets et repartir tout de suite. Quoi.
Donc du coup, vous n'avez pas profité de Tokyo du tout ?
On n'a pas profité de Tokyo. Et tu sais quoi, moi j'ai fait pour la blague, avant tu m'as dit, ah c'est dommage pour Tokyo, en me regardant, en me disant, ah, c'est dommage pour Tokyo, parce que j'avais prévu de voir des amis, j'ai prévu des choses.
Ouais.
Je lui dis, c'est pas grave, Tokyo existera sans doute demain. Et surtout, un autre truc, c'est que Tokyo, normalement j'y retourne.
Tu retournes pour le TGS, oui.
J'y retourne pour le TGS. Et pour la blague, je lui dis, je vais plus souvent à Tokyo qu'à Asnières.
Oui.
C'est juste une manière de dire, j'aurais dû dire Argenteuil, tu vois. Parce qu'Argenteuil, vraiment, j'y vais jamais.
Et qu'est-ce que t'irais foutre à Argenteuil en même temps?
Je sais pas, mais quoi, quand tu me dis Argenteuil, j'ai l'impression que c'est très loin. Alors que c'est pas loin du tout, en fait. Hein.
Bah non, c'est pas loin.
Ou Anthony, tu vois. Anthony, tu te dis, ah, Anthony, c'est... Non, en fait, c'est Anthony, c'est tout près.
RER A, Anthony, non?
C'est RER E. C'est erreur.
Ouais, je confonds.
Et du coup, on est rentré plus tôt. Et donc, ça fait beaucoup d'informations. Ligament croisé, le Japon.
Mm-hmm.
Et là, oui.
La conduite à gauche.
À gauche. Juste préciser, on est allé dans la région du Kyushu, que je connais un tout petit peu. Et on est allé au mont Aso. On est allé. On a visité deux volcans. Enfin, visité, on a monté deux volcans. Puis on a fait des choses un peu en dehors du. En fait. Tokyo, Kyoto, Osaka sont infestés de touristes. Ça en devient plus très agréable, surtout Kyoto. Et du coup, par contre, si tu acceptes de faire d'autres choses, en fait, c'est génial. Le bout du Japon où personne ne va, ben là, c'est vraiment.
Typiquement, tu vois, si j'ai la chance de retourner au Japon, c'est pas que j'accepte pas de faire autre chose, c'est que si tu parles pas japonais, c'est vachement compliqué de faire autre chose quand même.
C'est beaucoup plus facile qu'avant, parce que j'ai quand même croisé des touristes et ils avaient aucune notion de japonais.
Ouais.
Et peut-être qu'ils avaient réussi à faire marcher leur GPS, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de Chinois qu'avant, en fait. C'est aussi beaucoup plus de tourisme asiatique, ça, c'est une certitude. Maintenant, Maintenant qu'on est entré, je vais en revenir sur le sujet qui, je te disais, j'ai aucune difficulté pour monter des marches. C'est faux, j'ai un petit peu de mal. Et donc, il a fallu que je monte les marches de Cannes, puisque les gens disent, ah, les marches de Cannes. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux salles. Quand tu arrives au Palais des Festivals, en fait, il y a la salle du Grand Théâtre Lumière, qui est l'entrée principale, le tapis rouge. Mmh. Il y a aussi l'entrée de Bussy. Mais il y a plein de gens qui photographient l'entrée de Bussy comme si c'était l'entrée du Palais des Festivals. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais c'est à côté hein, qu'il faut photographier, c'est pas là. Parce que là, c'est juste l'entrée, c'est la salle pour les journalistes, en fait, la de Bussy. Elle est grande, hein, elle est magnifique, c'est une vraie belle salle de cinéma. Mm-hmm. Mais c'est une salle pour les journalistes. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que, effectivement, après 3 heures de film, parfois difficile à regarder, tu te lèves et t'as un peu du mal à remonter les marches, à descendre les marches, surtout à descendre après. J'ai eu quelques bons films, mais en tout cas, ça m'a pas gâché. En tout cas, le fait d'être un petit peu handicapé physiquement, ça va. J'ai réussi à quand même voir un paquet de films. Mon score a un petit peu baissé. Je suis descendu. Je fais pas tous les jours. Je rappelle aux gens. J'arrive pour l'ouverture, mais par contre, je pars avant car je déteste les fins de festival parce que j'ai l'impression de voir les gens. Hagard, un peu aigri, tu sais, les fins de festival, t'as l'impression que c'est un peu post-apocalyptique, c'est un peu, comme disait ma grand-mère, comme des mouches dans du miel, tu vois, c'est genre, les gens, ils sont un peu hagards, ils cherchent chez les journalistes, ils cherchent des soirées. Ou alors ils se disent, alors est-ce que t'as vu le film indonésien, le film roumain, machin. Et au bout d'un moment, en fait, t'as vu tellement de films, tu t'es un peu, tu perds contact un peu avec la réalité. C'est-à-dire, il pourrait arriver de n'importe quoi. Alors, reste de la France, tu t'es pas au courant en fait. Mmh. T'es là à regarder ton film sur quelque, je sais pas quoi, et sur l'adultère au Danemark. Et paf, tu sais, j'ai vu un film, mec. C'était un mec, un coupeur de roseaux en Hollande. T'attends 45 minutes avant d'avoir le premier dialogue du film.
Ah, j'ai cru qu'il fallait attendre 45 minutes pour le premier coupage de roseau.
Non, 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 tu vois beaucoup de coupages de roseau, mais c'est un trip hein, quand même. Et ça commence genre comme Twin Peaks, en fait, ils trouvent un cadavre, mais c'est dans le silence, quoi. C'est vraiment, il se passe vraiment, il faut être armé en sachant qu'il est diffusé genre le premier jour du Festival de Cannes et on arrive là devant ça et je fais, c'est pas possible. Et puis, quand au bout de 45...
Ouais, c'est volontaire, c'est quand vous êtes encore frais,
ouais.
vous êtes frais et dispo pour vous taper le coupeur de roseau, et bim, c'est comme ça qu'ils vous ont.
Mais il y a une... À partir de la 45e minute, je crois qu'il y a une vanne sur les pets, qui vient de nulle part.
Dans le premier dialogue.
Ouais, mais genre, il y a vraiment très 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 peu de dialogue. Et tu vois aussi le personnage qui est un vieux mec un peu, qui est un vrai fermier, c'est pas un comédien, donc en plus c'est pas joué par des comédiens mais des locaux, c'est un peu abrupt pour commencer.
D'accord.
Je vais juste te dire mes coups de cœur. Alors mes coups de cœur, c'est, attention, celui qui a gagné la palme d'or cette année.
D'accord.
Et j'avais dit, mais un simple accident, mais je pense qu'il aura la palme. C'est un film iranien sur un. C'est un thème récurrent du cinéma. C'est le mec qui reconnaît son tortionnaire, en fait.
D'accord.
Et en fait, il entend un mec, il est chez un garagiste, et tout d'un coup, il entend un truc. Il voit un gars, il a l'impression de reconnaître son tortionnaire, qu'ils ont jamais vraiment vu, qu'ils ont entendu et tout, et ils sont persuadés que c'est lui, et commence alors le fameux truc d'essayer de l'identifier et tout ça. Mmh. Et il va essayer de rentrer en contact avec d'autres gens qui ont été victimes de ce mec-là. Et ça, c'est vraiment super. C'est vraiment du début à la fin, c'est vraiment un méga bon film, je suis rentré à fond dedans. Complètement. Pour toi, il y a un film que j'ai sélectionné pour toi, et précisément pour toi, c'est Eddington.
Ah, j'en ai entendu parler, ça en a pas mal parlé sur le Discord.
C'est le Ari Aster.
C'est le Ari Aster, oui, c'est ça.
Ari Aster, écrit pendant le confinement.
Tu sais que je n'ai jamais vu un seul film d'Ari Aster jusqu'ici.
Mais il te reste quelques bons films à découvrir, c'est cool.
Ah ouais, ouais, a priori, il y en a quelques-uns qui sont sur ma liste, mais que j'ai toujours pas eu le temps de regarder.
Eddington, en fait, c'est l'histoire d'opposition entre un shérif et le maire d'une ville, et ils vont être candidats tous les deux pour le poste de maire, enfin voilà. Mm-hmm. Quelque chose les oppose. Il y en a un qui est joué par Joaquin Phoenix et l'autre qui est joué par Pedro Pascal.
D'accord, bah, ça va, c'est deux acteurs que j'apprécie.
Mais c'est vraiment super. Mais en gros.
Deux acteurs du DC Universe, hein, le Joker et je sais plus le nom du personnage dans Wonder Woman 84 de Pedro Pascal.
C'est vrai. Mais bon, maintenant c'est Reed Richards.
C'est vrai. Il a fait le bond vers la rive opposée.
Et il commence à être en opposition et ça va de mal en pis. Et c'est plutôt drôle. Mais par contre, j'ai parlé à des Américains de ce film. Et les Américains le prennent assez mal. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que tu peux t'imaginer que les gens qui sont à Cannes, ce n'est pas des Trumpistes. Il y a peu de chance.
Oui, globalement.
La statistique veut que ce n'est pas trop des Trumpistes. Mais il peut en avoir. Mais... Alors,
sauf quand il y a Clint Eastwood, quoi.
Mais même, tu vois, genre... Les gens de gauche, même
ou Stallone.
Regarde Stéphane, il accepte la droiture de Clint Eastwood complètement.
Ouais.
Il l'embrase même, tu vois. C'est ce qui le trahit en fait. Et là, le truc, c'est que ça oppose quand même les anti-vax et les vax. Ça oppose les gens qui veulent. Ça met en opposition vraiment les deux Amériques. À un moment clé qui est la fin du premier mandat de Trump. Entre temps, il y a eu le deuxième mandat de Trump. Et les gens, ils n'ont plus envie d'entendre ça. Enfin, les Américains, ils veulent plus être mis en porte-à-faux devant leur propre... c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Mm-hmm. Les mecs m'ont dit, d'abord, c'est outdated, parce que c'est... le deuxième mandat Trump est beaucoup plus violent que le premier, et donc, du coup, tout ce qui est dit est encore au-dessous de la vérité d'aujourd'hui, donc déjà, ils sont un peu blasés, en fait.
Ouais. Et le film a été ringardisé par la réalité, quoi.
C'est un peu l'idée, et surtout, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Ils ne veulent plus, c'est bon, ils ont soupé. Et du coup, je pense que c'est pour ça que chez les critiques américains, il n'a pas trop marché. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et je l'ai pris comme un film des frères Cohen, c'est-à-dire, c'est des gens globalement assez stupides. Il y en a un qui est moins stupide que l'autre, parce que tu peux t'imaginer que c'est Pedro Pascal, parce qu'il est un peu plus dans l'ordre de la logique et tout ça, mais ils ont aussi leur camp, le truc un peu... voilà, c'est une opposition de camp, quoi. Il y a des gens autour de lui qui sont un peu bêtes aussi, quoi. Et du coup, voilà, j'ai vraiment bien apprécié Edding Touch, je te le recommande, mais je peux comprendre que c'est un film qui va agacer les Américains. Et je t'ai choisi une comédie aussi.
Ah.
Je t'ai choisi même deux comédies. La première, il s'appelle Classe Moyenne. Et Classe Moyenne, c'est Parasite. T'as vu Parasite quand même ?
J'ai vu Parasite, oui.
C'est Parasite, mais...
En salle ?
Mais avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzi Bedia et Laure Calamy.
Bah déjà, quatre acteurs que j'apprécie, donc oui, continue.
Ils jouent tous globalement des connards. En gros, d'accord. C'est les mecs très riches qui possèdent une maison dans le Midi. Et ils ont deux personnes, deux employés qu'ils payent pour garder la maison à côté et aussi entretenir leur grande maison. Mmh. Ce qui est un truc que font les gens très riches qui ont des grandes villas dans le Midi. Quoi.
Ou comme dans Parasite, hein, avec je sais pas quel est son titre.
La gouvernante.
La gouvernante, ouais, qui vit dans la maison avec eux, en fait. Mmh.
Et là commence un truc vraiment qui va de mal en pis. Au début, il y a un casus belli. Mmh. Et au fur et à mesure, au lieu de s'expliquer tout ça, ça part en vrille. Et Laurent Lafitte joue un connard, mais extraordinaire.
A-t-il une moustache dans le film ?
Je me demande s'il a une moustache.
Parce que Laurent Lafitte, en principe, quand il joue un connard, il a une moustache.
Et maintenant tu sais quoi, je l'ai vu dans au moins deux films, et en plus deux à la suite, puisqu'il jouait Bagné. Tu sais qui est Bagné ou pas ?
Non, ça me dit rien.
C'est le photographe qui a volé, enfin qui a escroqué, ou... qui s'est fait offrir 800 millions d'euros de cadeaux.
Ah, par Bettencourt ?
Et par Bettencourt, par Lilian.
Ouais, ok. Jean-Marie Bagné, c'est ça son nom ?
Pierre-Marie.
Tiens, ouais, un nom comme ça.
Enfin, un truc en nom composé. Et bah, il le joue aussi.
D'accord.
Et je l'ai vu coast to coast en plus. Hein. Matin, Pierre-Marie, et ensuite avocat et propriétaire dans le Midi, quoi. Et il sait bien jouer les connards.
Ah, il est très bon pour jouer les connards.
Je crois qu'il est. Je sais pas s'il se force, mais en tout cas, il est brillantissime. Et Ramzi, il fait bien, il sait bien jouer aussi la colère populaire, donc ça fonctionne très très bien et ça va de mal en pis. Et voilà, je te recommande vraiment.
François-Marie Bagné, voilà, c'est ça.
François-Marie. Désolé à tous les François-Marie qui nous écoutent. Non, mais il peut en avoir. Hein.
Je sais pas pourquoi on serait désolé, mais ok.
Non, non, mais désolé parce qu'on n'a pas. Je t'ai pas fait le worst of, hein, parce que du coup.
Non.
Parce qu'il y en avait vraiment des pas bien. J'étais le truc de.
Tous les ans, il y en a des pas bien. Hein.
Mais le film sur le postpartum avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, c'est, il fallait s'accrocher, quoi.
Ouais.
C'est genre Mother de Aronofsky, c'est subtil à côté, quoi.
D'accord.
Ah, c'est vraiment, c'est genre à base de...
Avec encore Jennifer Lawrence, t'as vu ?
Avec encore Jennifer Lawrence, et tu sens qu'elle est un step au-dessus en se disant « Je vais ramper pour avoir l'Oscar ». Elle rampe beaucoup.
Et j'ai entendu beaucoup de mal du film de Julia Ducournau.
Ouais, c'est pas bien. Dans aucun monde, ça fonctionne.
D'accord.
C'est vraiment pas bien. Ça s'appelle Alpha.
Avec Golshift et Farhani, donc c'est dommage.
Avec Golshift et Farhani, avec Taha Rahim. Et bien sûr, c'est un film de perf parce que Taha Rahim a perdu 800 000 kilos pour le faire, puisqu'il joue il joue un toxico, en fait. Je croyais que c'était un film sur le sida, en fait. C'est une métaphore du sida, mais ça parle beaucoup plus de la toxicomanie.
Mm-hmm.
Et ça part en vrille avec des espèces de sauts temporels incompréhensibles et pas très logiques. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'avais plus rien à foutre, je voulais que ça s'arrête, en fait, tout simplement. C'était pas très agréable. Et je t'ai sélectionné un film politique, car je sais que tu aimes les films politiques.
Allez, vas-y.
Mais c'est une petite comédie qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche.
D'accord, de quoi ça parle ?
Ça parle de la Grande Arche de la Villette, puisque, comme tu sais...
De la Villette ?
Merde, la Grande Arche de la Villette. De la Grande Arche, non, de
mais
la
je
défense.
Me suis dit, écoute, j'ai quitté la France depuis un moment, ils ont peut-être construit une deuxième Grande Arche à la Villette...
Mais non, mais c'est la Grande Arche de la Défense.
Donc c'est bien celle de la Défense, ok.
Et c'est marrant parce que quand j'ai raconté le film déjà, j'ai refait le même truc. Quoi. Je veux qu'il y ait une arche à la Villette, je sais pas pourquoi.
Toi, maire de Paris, ça arrivera peut-être.
Alors figure-toi que c'est un film où il y a Alain Juppé. Il y a un mec qui joue Alain Juppé, il y a un mec qui joue Mitterrand qui est brillantissime.
D'accord.
Mais il est vraiment, je pense, un des meilleurs Mitterrand de cinéma. Et en gros, ça se déroule au début des années 80, 1983. Il y a un projet architectural et il y a une compétition qui est faite anonyme. Et c'est un mec qui gagne devant tout le monde et c'est un inconnu.
Mm-hmm.
C'est un mec qui s'appelle Johan Otto von Spreckelsen.
D'accord.
Il est danois. Non, je crois qu'il est danois, il est de Copenhague. Et il a à son actif, il a construit que sa maison et trois églises. Et c'est son projet qui est retenu, et c'est l'histoire du projet de la Défense. De la
D'accord.
Défense, c'est bon.
Mais c'est l'histoire vraie, quoi.
C'est une histoire vraie, c'est très très bien. C'est vraiment très très chouette. Moi j'aime bien les films d'époque des années 80 et tout, et il y a un gros effort de reconstitution. À part que le mec qui joue Johann Otto von Frankenstein, il ressemble un petit peu à comment il s'appelle, Raphaël Enthoven. À part ça... Je vois pas de défaut objectif à ce film.
Ouais, tu sais que alors moi je connaissais pas tellement l'histoire de la Grande Arche et du coup je suis sur la page Wikipédia de Johann Otto von Spreckelsen et il est mort avant qu'elle soit finie en fait.
Alors si tu veux spoiler le film pour ceux qui ne connaissent pas, oui, il est mort en voyant.
Ah, je suis désolé, j'ai lu la page Wikipédia, j'ai donc spoilé le film.
Écoute, je sais pas si on le garde, alors on verra bien.
Je suis sur la page Wikipédia de l'architecte, hein. Je suis même pas sur le film, mais non, il est.
Oui, oui.
Il est mort deux ans avant la.
Ça fait partie du drame, mais c'est assez passionnant et les touches de Mitterrand sont vraiment délicieuses, quoi.
D'accord.
Donc voilà, ça je recommande. Et puis il y en a d'autres qui me reviendront, mais voilà, ça c'est les...
Enfin, tu recommandes surtout parce qu'il y a Alain Juppé dedans, quoi.
Et Mitterrand. Alain Juppé.
On connaît ton amour pour Péju.
Et pour toi, bien sûr, il y a Mission Impossible. Mais bon, je sais que...
Bah, je le vois ce soir, donc je ne peux pas encore en parler. Je viens juste de revoir Dead Reckoning, donc... qui est anciennement partie 1 de ce diptyque qui finalement n'en est plus un. Et
alors crois-moi qu'il y a beaucoup de récaps qui sont faits dans le premier.
Ouais, bah j'appréhendais un peu parce qu'en fait j'avais oublié pas mal de trucs. Parce que en revoyant Dead Reckoning, je me rends compte à quel point il est vraiment faible en fait cet épisode. Si on devait faire un Mission Impossible Battle, et je pense que on pourrait en faire un quand tout le monde aura vu le 8e. Le 7 il ira pas bien haut, je pense, hein.
Moi je ne peux plus voter pour le 8e puisque, comme tu sais, j'ai un membre de ma famille éloigné qui a travaillé dedans et j'ai vu les photos qu'il a faites en fait, il était sur le tournage et tout ça.
Mm-hmm.
Il travaillait on set pour le making of et tout ça.
Bon, donc, bah au moment de classer le 8, ce sera juste Stéphane et moi du coup.
Ouais, voilà. Je pourrais pas classer le 8, mais ce n'est pas le meilleur, mais il y a une cascade de ouf. Voilà,
d'accord. Mais ben écoute, je verrai ça ce soir. Car oui, j'espère que je vais rester éveillé parce que je vais à la séance de 22h30 et j'ai cru lire qu'il dure 2h40, donc ça va encore se terminer à pas d'heure.
C'est un 2h40 et la première heure et demie est un peu. Elle te sélectionne à l'entrée, comme on dit. Elle est.
Ouais.
Elle est, ouais, déjà, c'est un petit peu dur.
En revoyant Dead Reckoning, j'ai rigolé parce que je m'étais pas rendu compte que le générique du début, il commençait au bout de 28 minutes de film quand même.
Mais ouais, on oublie, mais en fait, il met très 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 longtemps à se mettre en route. Mais en fait, je pense que, mais tu verras par toi-même, mais je pense que les deux films mis bout à bout en remontée, ça aurait fait un excellent Mission Impossible.
Ouais, alors il aurait fallu quand même pas mal tailler dans le gras, mais c'est vrai que le Dead Reckoning, t'as la scène avec le sous-marin Sévastopol, ensuite t'as la scène dans le désert où il va récupérer Ilsa, et ensuite t'as la scène du compte-rendu de la réunion à haut niveau des multiples services secrets américains qui l'infiltrent, et c'est ces trois scènes-là, bah, c'est 28 minutes de film, et c'est avant le générique, c'est ouf quand même.
Alors, écoute, je vais... on va pas parler de Mission Impossible, parce que tu l'as pas vu, mais par contre,
non.
On va parler d'un autre comédien qu'on a vu, enfin, dont j'ai mentionné le nom. C'est un mec qui joue dans une série qui s'appelle The Last of Us, c'est Pedro Pascal.
Ouais.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une scène à Cannes, enfin une scène pendant la conférence de presse, puisqu'il y a une conférence de presse pour chaque film, en tout cas en compétition.
Ah oui, donc c'était une conférence de presse pour le film dans lequel jouait Pedro Pascal.
Ouais.
Et ça s'est mis à parler de Last of Us.
Ça a spoilé Last of Us. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas joué à Last of Us 2...
Non, mais on n'est pas obligé de le spoiler. On n'est pas obligé de spoiler,
mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a posé la question en public et Emma Stone, elle a flippé, elle a dit « Quoi ?»
C'est violent comme spoiler. Alors, petite anecdote personnelle, si tu me permets.
Et voilà.
Donc, je n'ai pas encore regardé la saison 2 de The Last of Us. Parce que je voulais absolument jouer à Last of Us Partie 2, parce que je n'y avais jamais joué, en fait. Une des raisons pour lesquelles je n'y avais pas encore joué, alors que le premier, j'y ai joué il y a un petit moment déjà, mais une des raisons pour lesquelles je n'y avais pas encore joué, c'est que à l'époque de la sortie de Last of Us 2, j'étais encore modérateur sur les forums Game Cult, et quelqu'un avait carrément balancé l'un des principaux twists qui se produisent au bout de 2-3 heures de jeu, mais quand même, l'avait quand même balancé sur le forum. Et étant modérateur, j'avais donc dû le lire avant de pouvoir le supprimer pour éviter que d'autres gens soient spoilés. Donc je m'étais fait spoiler ce twist en particulier. Ça n'a pas été le seul, hein. Il y a eu d'autres jeux que je me suis fait spoiler comme ça. Malheureusement, c'est les affres du métier de modérateur mou. Mais donc pour Last of Us 2, je m'étais dit si j'attends assez longtemps, peut-être que j'oublierai. Bon, ma cache, j'ai jamais oublié, hein, je me souvenais exactement de ce twist en particulier. Et donc quand j'ai fait le jeu, quand je suis arrivé à ce passage-là, donc au bout de 3 heures de jeu, je me suis dit allez, c'est bon, maintenant normalement je suis spoiler free, je peux y aller. Et effectivement, j'étais spoiler free. Tu l'as fait toi Last of Us 2 en jeu, Daniel ?
Bien sûr, bien sûr.
D'accord. Une de mes plus grosses surprises, ça a été d'à quel point le jeu est long en fait. Parce que
c'est terrible.
Quand tu penses que ça va s'arrêter, ça continue et limite ça repart. Et t'es même pas à la moitié quoi. C'est assez hallucinant.
Quand ça repart, j'ai dit bon c'est bon, ça s'arrête là. Et en fait.
Et en fait non.
Ça repart. T'as encore un tour de manège. Et le tour de manège, j'en avais ras le bol de tuer des gens quoi.
Et en fait, ouais, il y a une partie de ça. Alors, j'ai globalement pas détesté l'expérience. J'ai plutôt apprécié en fait ce que le jeu avait à me dire et à me faire faire. Mais j'ai quand même un reproche. J'ai un reproche qui est que je trouve le jeu malhonnête. Alors, le mot est peut-être un peu fort.
Non, non, mais je pense que c'est même dégueulasse de manière.
Ouais. Mais... Alors, on va voir si on est d'accord. Moi, je reproche au jeu. Je reproche pas ce que le jeu essaye de dire. Je trouve que c'est un discours qui s'entend complètement. Globalement, hein, le jeu est une condamnation du cycle de la violence, qui explique que voilà.
La violence engendre la violence. C'est très très fin et très bien martelé dans le jeu.
C'est pas d'une grande finesse. C'est pas le message le plus intelligent du monde, ni le plus original du monde. Mais c'est globalement, tu comprends bien en fait que voilà le cycle de la violence, que la vengeance et tout. Et voilà, tu connais quand on connaît un peu Neil Druckmann et ses origines, où on comprend où il veut en venir. Et globalement, ça s'est plutôt bien fait. Mais je trouve ça... Alors, toi, tu dis dégueulasse, et c'est vrai qu'on peut trouver ça dégueulasse. Moi, je trouve ça malhonnête de vouloir me faire me sentir coupable d'agissements que j'ai pas voulu faire en premier lieu et que le jeu m'a obligé à faire, en fait.
Mais déjà dans le premier, hein.
C'était déjà un peu le cas dans le premier, mais dans le premier, t'avais un peu une certaine illusion du choix qui pouvait encore tenir.
Ouais, mais...
Sauf que là, en fait, le 2 te donne bien... Enfin, te rendre compte qu'en fait, non, t'avais pas le choix et on va te le faire regretter, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment malheureux, parce que, tu vois, t'as des jeux comme The Walking Dead où t'as l'illusion du choix, mais on n'essaye pas forcément de te faire sentir vraiment aussi mal après t'avoir donné juste une illusion de choix. Et là, vraiment, j'ai trouvé la manière dont c'était fait, ouais, particulièrement... Ouais, malsaine, quoi. Que si j'avais vraiment un vrai choix et que on me faisait regretter d'avoir fait ces choix-là, dans ce cas-là, je trouverais que ça serait plus percutant et peut-être potentiellement plus réussi. Parce que oui, il y a... Je veux pas spoiler un twist majeur, mais par exemple, il y a une des nouveautés de cet épisode, c'est que certains des ennemis humains, parce que dans Last of Us, on tue des zombies, mais on tue aussi énormément d'humains, certains des ennemis humains ont des chiens. Et il y a un moment où, en fait, tu peux éviter de tuer tous les chiens du jeu, sauf un. Il y en a un moment, le scénario t'oblige à le tuer. Et un peu plus tard, lors d'un flashback, on te fait jouer à la balle avec ce chien en particulier. Et je me suis dit, oh putain, je vois exactement ce que le jeu va faire dans les heures qui vont suivre. Oh, ça va être horrible.
J'avais pas de souvenir de ça.
T'avais pas calculé ça. Et en fait, pendant le jeu, quand tu butes les chiens, si jamais tu butes le chien avant de buter le maître va gueuler le nom du chien. Et ensuite, il y a un passage où tu vas voir les chiens en question, tu vas voir leur nom, tu vas dire « Ah putain, c'est horrible, c'est horrible. » Et ouais, il y a...
Aucun souvenir de ça, par contre.
Ah ouais, moi, c'est vraiment... En fait, ce passage avec le chien, on me fait jouer à la balle. T'es même pas obligé de jouer à la balle, hein. C'est pas obligatoire, mais ça m'a fait supposer ce qui allait se passer par la suite, et ça n'a pas loupé, en fait. C'est exactement ce qui se passe ensuite. Tu te rends compte que tous ces ennemis qui étaient déshumanisés et qui n'étaient que de la chair à canon, derrière, on te montre, bah non, en fait, c'était une personne. C'est une personne qui avait des amis, une personne qui avait une famille, une personne qui avait un passé, une personne qui a été amenée à faire tel choix, et des choix qui étaient différents des tiens. Mais est-ce que ça justifie que tu les aies massacrés comme ça? Enfin, vraiment, ça aurait été tellement plus percutant si on avait eu un vrai choix. Et ça m'amène au jeu que je suis en train de faire en ce moment, qui est Red Dead Redemption 2, que je n'avais pas fait à l'époque. Et Red Dead Redemption 2, il se positionne d'une manière encore différente, parce que, étant donné que c'est un préquel, si on a déjà fait le 1, on sait très bien que l'histoire du 2 va mal se terminer, en fait. On le sait dès le départ, parce que dans le 1... Tu termines ce que tu commences dans le 2, en fait.
Ouais, et puis il y a des persos, il y a 2-3 persos qui reviennent et qui parlent de...
Il y a 2-3 persos qui reviennent, voilà, qui font référence à des personnages que maintenant tu découvres de leur vivant dans Red Dead Redemption 2. Et Red Dead Redemption 2, en fait, est une fuite en avant vers une fin qu'on sait, on sait que ça va très mal se terminer. Mais la force de Red Dead Redemption 2, elle est dans ses pas juste dans ces quêtes secondaires, elle aussi dans ces rencontres aléatoires, elle est dans ces personnages que tu vas rencontrer. Alors, il y a aussi un moment où malheureusement, t'as pas le choix et ça amène à la fin du jeu, à la fin d'un des protagonistes, voilà.
Oui, je vois très bien ce que tu dis. Le chapitre 4, comme on dit.
Mais quels que soient tes choix, malheureusement, il y en a un, là, t'es obligé de le faire et derrière, ça aura des conséquences terribles pour le protagoniste. Mais il y a plein de moments où tu peux faire vraiment des choix qui vont être décisifs et qui vont amener à des résultats complètement différents par la suite, et je trouve ça vachement plus fort, en fait.
Red Dead Redemption 2, tu étais face aux origines et aussi aux conséquences aussi de ce que tu fais, et parfois tu avais un suivi de ça. Tu parles de moments de choix de Red Dead Redemption 2, à un moment, tu n'as pas le choix, tu dois collecter de l'argent, tu dois collecter de l'argent, et il y a des missions très crade de collecte d'argent du Far West. Et il y a un mec, clairement une famille, tu pourrais leur foutre la paix et dire bah non, j'ai pas pu récupérer, et les laisser vivre. Enfin, les laisser aller
en paix, quoi, voilà.
Les laisser en paix. Et en fait, non, tu vas faire quelque chose qui aura des conséquences, et quand si tu joues à la fin du jeu et que tu fais un peu les quêtes secondaires.
Ouais, et je les ai faites ces quêtes, donc je vois très bien de quoi tu parles.
Tu retombes sur les personnes et tu retombes sur les conséquences de ce que t'as fait. Et
c'est là que le terme rédemption, d'ailleurs, dans le titre, prend tout son sens, parce que tu as le choix. Tu peux encore choisir d'être un connard si tu veux, ou tu peux même pas chercher cette rédemption, parce qu'en plus le protagoniste dit clairement je ne cherche pas votre pardon.
Elle dit allez vous faire foutre, même, voilà. Même quand si tu l'aides. Ouais.
Et vraiment c'est super intéressant. Et il y a plein de personnages comme ça qu'on va rencontrer au hasard dans la nature, et c'est vraiment très bien fait. Je trouve ça encore mieux fait que dans le premier Red Dead ou dans GTA V. C'est, t'as des personnages, tu vas leur parler. Et ils deviennent des quêtes secondaires, mais à la base, ils sont même pas sur la map.
Mais
à la base, c'est un petit point, comme il y en a des dizaines, genre quelqu'un qui est dans une situation où genre il se fait agresser, et tu vas aller l'aider, et ça devient une quête, et je trouvais ça vraiment super bien.
Mais tu vois, en fait, Red Dead ne te donne pas l'illusion du choix, il te donne vraiment des choix. Last of Us, justement, c'est justement, pour revenir à Last of Us, c'est pas une histoire de choix, et en fait, j'en suis arrivé à penser que Neil Druckmann, en fait, tout ce qu'il y a de bien dans le premier, en fait, c'est... Dans le premier jeu, c'est pas de son fait, il a lutté contre ça.
Mm-hmm.
Je pense que c'est vraiment ça, il a lutté contre ça. Et dans le 2, il avait les cartes blanches, et il a fait ça, et c'est pour ça que c'est tellement boursouflé. Et il y a des choses qui fonctionnent, et il y a des choses qui fonctionnent beaucoup moins. Mais le fait que, bah, je sais pas si tu es au courant, mais Amy Hennig, elle travaillait beaucoup sur Uncharted, mais elle avait travaillé aussi sur Last of Us. Et voilà, enfin, la rumeur veut que...
qu'elle soit partie à cause de ça.
Enfin, qu'il y a eu un différent créatif au moment de Uncharted 4. Mmh. Mais je peux pas ne pas penser qu'elle a pas un jour un moment d'input là-dessus. Enfin, c'est... Après, Neil est le créateur, l'auteur original et tout ça, mais je suis persuadé que il y a eu du conflit dans l'écriture et qu'à un moment ils sont arrivés à la fin un peu dur du premier, mais dans le deuxième tu sens que c'est un peu facile et que les effets sont un peu faciles. Et d'ailleurs je peux te dire qu'il réalise un épisode dans la saison 2, et c'est un épisode important parce que c'est celui où Ellie discute avec il est tard, c'est pour ça que j'essaie de me souvenir des prénoms. Merde, putain.
Avec quel autre personnage? Parce que les prénoms, ils sont frais dans ma tête. Moi, je l'ai
avec Joel, avec Joel.
Avec Joel, d'accord.
Et donc, elle discute avec Joel, et voilà, c'est le moment de discussion, et c'est cet épisode-là, et ça passe vraiment... Pourtant, ici, il y a des super comédiens, et je pense que les comédiens, ils montent le niveau de ce qui était dans le jeu, mais par contre, tu vois clairement que... je me dis, c'est vraiment... Genre, c'est un peu gâché, quoi. Enfin,
c'est un peu une hot take dessus. Last of Us, pour moi, la série...
Chacun sa hot take sur Last of Us, d'accord.
Ouais. Après, bon, j'ai quand même apprécié le jeu, hein, au final, pour ce qu'il était.
Moi, je suis pas fan du jeu lui-même, en fait.
Ouais, même si j'ai trouvé que la manière de me faire sentir mal était malhonnête. Mais globalement, j'ai quand même apprécié le jeu. Mais donc, ma hot take sur Last of Us, c'est que la raison pour laquelle l'adaptation est de si bonne qualité, c'est qu'en fait, c'est une histoire qui, à la base, aurait pas dû être interactive. Ça aurait dû être une série ou un film, et pas un jeu vidéo. Et je m'explique, si l'histoire qu'il voulait te raconter, c'était justement dénoncer ce cycle de la violence et montrer que ça n'arrange rien, et puis te faire te sentir mal parce que tu as eu de l'empathie pour ces héros qui, au final, n'étaient pas aussi parfaits que tu l'aurais voulu, ne me donne pas l'illusion du choix. Alors, faisons un film, faisons une série, et je vais la suivre. Mais si tu me donnes l'illusion du choix et que tu me fais passer moi pour un immonde connard alors que dans les faits j'ai pas eu le choix de ce que tu voulais que je fasse, c'est dégueulasse. Et effectivement, je te rejoins, je réutilise le terme dégueulasse. Et donc je pense que c'est peut-être une œuvre qui aurait gagné à ne pas être interactive, et c'est pour ça que son adaptation est de qualité.
Mais en plus, il y a la dissonance qui est vraiment gravissime, parce qu'ils dans la série, ils ne le font pas faire tous ces massacres, en fait. C'est que globalement, si tu finis le jeu normalement, en jouant tranquille, vu qu'il dure 30 heures, c'est 30 heures quand même.
C'est très long, ouais.
C'est interminable. Tu dois tuer entre 4 000, 5 000 personnes. Enfin, je sais pas, à vue de nez, il y a parfois, il y a des mecs, ils arrivent à 50, à 60, suivant ton niveau de difficulté. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un massacre, en fait.
Ouais.
D'avoir tué 3000 ou 4000 personnes, tu vois, sans parler des zombies, enfin. Et en plus, dans le 1, donc déjà, je peux pas me mettre dans la peau d'un mec qui tue autant de gens, en fait. Qui tue autant de gens et qui, en fait, se dit, ah, est-ce que je suis pas MO, est-ce que j'ai fait les bons choix moraux et tout. Il y a vraiment une dissonance. Et dans le 1, c'est presque pire parce qu'il y a une séquence où la petite, c'est la petite, elle est encore jeune, hein, dans le 1. C'est la petite qui se bat et elle tue des gens, elle a pas l'entraînement d'un adulte, mais elle tue, elle égorge des mecs, elle égorge des adultes, ça devient Rambo, quoi. Enfin, et t'as une séquence qui t'oblige à jouer ça, quoi. Et moi, j'ai fait, non, mais c'est impossible, c'est pas possible, c'est comme, c'est qui casse, quoi. C'est, au bout d'un moment, tu crois pas que c'est une fille de 10 ans qui fait ça, genre, c'est de la BD, c'est de la fiction. Et je trouve que, je pense que c'est, il y a des vrais moments où tu te dis, ah, c'est vraiment, c'est dommage. Parce que dans le jeu, il y a des trucs aussi qui fonctionnent aussi. Mm. Le moment où ils sont à Seattle, Houston, ils arrivent à cheval dans une grande ville. Est-ce que c'est Seattle ? Je crois que c'est Seattle.
Non, Seattle, c'est dans le 2, en fait.
Dans le 2, hein, je parlais du 2.
Ah,
ouais, je crois qu'ils arrivent, je crois que c'est à Seattle.
Mais dans le 2 se passe quasiment intégralement à Seattle.
Bah voilà, ils arrivent à Seattle, mais à cheval, et je trouve que cette séquence où elle se remémore le monde passé en allant d'immeuble effondré à immeuble effondré, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien.
Ah, mais alors, cette séquence, pour moi, je comprends pas ce qu'elle fait dans le jeu, alors que je l'aime beaucoup, mais c'est une séquence en semi-open world, et derrière, on repart sur du couloir pendant tout le reste du jeu.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre parce que cette séquence open world fonctionnait de ouf, mais elle est là, coincée en sandwich, entre 3 heures de couloir et 25 heures de couloir. Et c'est vraiment très bizarre. Et j'ai pas bien compris, en fait. Je me demande si à la base, le jeu devait pas être en simili open world tout le temps. Et une fois qu'ils ont terminé cette séquence-là, ils se sont dit, on n'y arrivera jamais si on doit faire tout le jeu comme ça. Et peut-être qu'ils ont décidé de la laisser quand même, mais... Je comprends. J'aimerais bien, en fait, un post-mortem sur Last of Us 1 et 2 avec vraiment comprendre comment ces jeux ont été faits et été conçus.
Avec les insiders, ouais.
Ouais, voilà, ouais. Parce que cette séquence-là, même si je la trouve très réussie et c'est peut-être une de mes séquences préférées du jeu, bah ouais, elle dénote, quoi.
Non, mais il y a un vrai problème. Mais par contre, je pense que Pedro Pascal et j'ai un trou de mémoire, mais.
Bella Ramsey,
je pense qu'il est vraiment. Il font en sorte que ils élèvent le matériel, quoi.
Ouais.
Je pense qu'ils sont. Mais c'est aussi, ils passent derrière quelque chose. C'est quelque chose qui a été réécrit, refait. Et je pense que les passages les moins réussis, c'est ceux qui sont les plus fidèles, en fait.
C'est dans la saison 1, le meilleur épisode, c'est l'épisode sur deux personnages secondaires, dont un qui est même pas vivant quand tu fais le jeu, quoi.
Il y a un détail que je trouve assez intéressant dans le 2. Dans la saison 2, et là je te spoil pas un truc, mais c'est un détail qui est assez intéressant.
Ouais, ouais.
Tu le vois dès le premier épisode. Joël, dès le premier épisode, en fait, il va chez le psy.
D'accord.
Et en fait, c'est logique.
Oui.
Tout ce qu'il a fait dans la vie.
Ah bah comment ouais, ouais, tu peux vivre tout ce qu'ils ont traversé, oui.
Comment tu peux vivre avec ça? Enfin, il a perdu son enfant, il se retrouve avec cette fillette, machin, tout ça. Et comment tu peux vivre avec ça? Surtout que ça a l'air d'être le genre, il est plutôt taiseux, c'est pas le mec qui te raconte tout. On le sait, vu que t'as joué au jeu, tu vois que c'est,
bah oui,
mec,
oui.
C'est pas un mec qui raconte sa life, quoi. Et ça tombe sous le sens qu'il aille voir un psy et qu'il y essaye et surtout de mieux communiquer avec sa fille, enfin on l'appelle sa fille, mais bon, c'est ça le problème, c'est ça.
Sa fille de substitution, quoi. C'est ça
le thème du début, c'est qu'il n'arrive pas à communiquer avec elle, c'est une non-communication et ils vont dans le mur tous les deux, quoi. Et je trouve ça logique qu'il aille voir un psy. Mais en plus, c'est intéressant, un psy dans ce monde-là, à quoi ça sert?
Ouais, il
vaut mieux avoir un mec qui sache faire de l'électronique, de l'électricité, un mec qui sache tirer au fusil de snipe.
Après, tu sais, dans un monde pareil, tu dois quand même avoir pas mal de sources de stress et d'anxiété. Un psy, ça peut servir, je pense, quand même.
Mais justement, elle ironise un peu dessus et elle est jouée par. Alors, est-ce que je te dis par qui elle est jouée ou est-ce que je te laisse découvrir?
Laisse-moi découvrir.
Mais elle est jouée par une comédienne qui était la maman d'un enfant de cinéma.
D'accord, bah écoute, je découvrirai.
Voilà, si tu captes.
Ouais, non, mais on va regarder la saison 2 avec mon épouse. Hein. Je voulais juste avoir fini le jeu et puis.
Si vous voulez, je m'adresse aux auditeurs, si vous voulez, on reprendra cette discussion au moment où la saison 2 sera terminée. On a réussi à parler de complètement le Last of Us 2 sans jamais spoiler quand même.
Hein. Eh, on n'a rien spoilé.
Donc, on a rien spoilé. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là.
Ouais.
Et se dire on en regarde pour le prochain épisode.
Et on a même parlé de Red Dead 2 sans rien spoiler. Donc
Moi, je préfère Red Dead 1, mais Red Dead 2, le même moment dont on a parlé là, quand ça m'a fait ça, j'ai été estomaqué comme rarement par un jeu dans mon implication dans le jeu. Quoi.
Mais en fait, le moment où tu vois vraiment ton personnage, et c'est ça, on va repartir sur Red Dead 2, ce que je trouve vraiment très intéressant avec le personnage de Red Dead 2, c'est que autant John Marston dans Red Dead 1, tu sais que déjà il bosse pour les flics, donc il va essayer d'être relativement cohérent, de pas faire trop de braquage, de pas commettre trop de crimes, parce que mine de rien, la survie de sa famille en dépend. Alors que Arthur Morgan, il a vraiment cette ambivalence. Ça reste un braqueur, ça reste un type qui n'hésite pas à faire usage de violence. Il passe son temps à dire aux gens qu'il rencontre qu'il n'est pas un homme bien. Et c'est ça qui le rend vraiment super attachant et passionnant. C'est que tu as même une jauge de moralité dans le jeu. Et en fait, la fin du jeu va être différente en fonction de si t'as fait le bien ou de si t'as été une complète ordure, en fait.
Est-ce que t'as pas trouvé que cette jauge est un peu difficile à maîtriser ?
Globalement...
Parfois, pour des questions cons, la jauge, elle s'affolait.
Alors ça m'est arrivé 2-3 fois, notamment, je me fais attaquer par 3 mecs, je les bute tous, et je m'étais pas rendu compte qu'avant de m'attaquer moi, ils avaient buté quelqu'un, et en dépouillant cette victime innocente, j'ai perdu de la moralité, j'étais dégoûté. Parce que oui, évidemment, j'essaie de jouer un parangon de vertu. C'est quand même incroyable, dans les jeux vidéo, je n'arrive pas à être complètement méchant, en fait. J'ai l'impression que si je suis complètement méchant, je vais rater une partie des jeux. Je sais pas si ça te fait pareil.
J'essaie d'être lawful le plus possible. Et par exemple, moi, au début, je me suis dit, on va faire l'espèce de petit trophée à l'intérieur du jeu. Genre, il y a les trophées de chasse, genre, il faut chasser les lapins de niveau expert, il faut, les trucs un peu fous. Et à un moment, un des trophées, c'est être sur le toit du train, y a un train, tu vois, il y a une ligne de train.
Ouais.
Être sur le toit du train, et il faut shooter des canards ou des oies qui passent à un moment. Et quoi que tu fasses, si tu fais ça, t'es considéré comme hors la loi et t'as tout l'État, tout le comté qui se met à ta poursuite parce que t'as tiré des coups de feu sur un train, sur des canards. Et ça me foutait. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit non, faut arrêter. J'arrête de faire ça.
Mais si ça se trouve, c'est même pas parce que tu tires sur les canards, c'est juste que t'as tiré depuis le train, en fait.
J'ai tiré depuis le train, oui. Mais c'est pour ça.
Mais il me semble que dans le 1, tu te faisais pénaliser même si tu tuais trop de gibier sans le dépecer, en fait.
Ah ouais?
De mémoire, alors peut-être que je confonds avec un autre jeu, mais il me semble que dans Red Dead 1, si tu tues trop d'animaux sans les dépecer, t'es considéré comme juste un viandard qui tue sans raison, en fait. Et du coup, tu finis recherché, il me semble.
Écoute,
j'ai pas essayé dans le 2 parce que j'ai fait quasiment aucune quête de chasse à part celle qui était en suivant le scénario.
Obligatoire. Oui, mais t'as fait un run vegan, comme on dit.
Et en fait, quasiment dès le début, on t'invite à aller chasser un grizzly légendaire. Et j'ai essayé, je lui ai tiré 2 coups de fusil à pompe en pleine face à bout portant. Ça l'a pas tué, il m'a déglingué. J'ai dit c'est bon, je reviendrai plus tard. Mais alors je n'ai jamais tué mon cheval, je suis très attaché à mon cheval que j'ai appelé Patrick Balkany. Et jusqu'ici, je ne l'ai jamais tué, il n'est jamais mort. J'en prends soin comme de mes chats. Et je serais très triste s'il lui arrive quelque chose à mon cheval. Et globalement, j'ai quand même eu des problèmes avec les contrôles. Alors, ça va maintenant parce que je suis à 30 heures de jeu, mais purée, au début, comment c'est compliqué. Les contrôles qui changent parfois radicalement en fonction du contexte, c'est vraiment super compliqué. Alors après, je comprends que pour leur game designer, ça a dû être chiant parce qu'ils voulaient... parce que t'as tellement de possibilités d'action que tu t'y perds au bout d'un moment, quoi. Mm. Mais ouais, c'est extrêmement complexe. Honnêtement, les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux vidéo, je vois pas comment ils ont pu s'en sortir sur ce jeu en particulier, quoi. C'était quand même vachement plus simple le premier. Je sais plus ce que je voulais dire, mais globalement, je passe un excellent moment sur Red Dead 2, voilà.
Allez, on se lance au reco.
Allez, c'est parti.
Le bois ne rend pas les coups.
After Eight, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as recommandé pour cet épisode ?
Alors, j'avais rien de particulier et je me suis souvenu d'un jeu que j'ai terminé sur Switch il y a quelques semaines. Donc je vais encore parler jeux vidéo, décidément. Hein. C'est un jeu Vanillaware qui s'appelle 13 Sentinels Aegis Rim. Je pense que tu connais.
Ah, tu m'étonnes.
Mais c'est un jeu, j'étais complètement passé à côté et c'est grâce au forcing de notre ami Tony sur le Discord que j'ai fini par craquer et par le faire. Et ouais, ça a été un coup de cœur quasi instantané. Alors, comment décrire 13 Sentinels ? C'est un mélange entre une sorte de visual novel point and click et un STR.
Globalement, je pense que... Très simplifié.
Voilà, c'est un STR archi simple et globalement, les phases STR, c'est pas les plus passionnantes parce que c'est vraiment super facile, en fait. Il y a très, très peu de challenge dans les phases STR, vous allez rouler dessus, quoi. Mais ce qui est passionnant, c'est l'écriture, c'est le scénario. Et alors, c'est un bordel. Quand on commence le jeu, c'est incompréhensible. Déjà parce que, comme le dit le titre, 13 Sentinels, on a 13 protagonistes qui pilotent autant de mécas géants qui donc s'appellent les Sentinelles. Alors déjà, les 13 protagonistes, ils ont des personnalités toutes très marquées. Donc on arrive assez facilement à les différencier, assez rapidement à faire la différence entre qui est qui.
Mais les 13 protagonistes ne sont pas à la même époque.
Et alors c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a des histoires de temporalité, de timeline. Et je ne veux pas en dire plus, parce qu'en dire plus, ce serait spoiler. Mais c'est archi compliqué de ce point de vue-là, parce que quand tu prends en main un des protagonistes, en fait, tu vas jouer une petite séquence, et cette petite séquence, elle peut être à n'importe quel moment, en fait, de la temporalité. Et tu as des interactions entre des personnages, tu te dis, mais attends, mais ce personnage-là, je l'ai joué en 1985, pourquoi il est tout aussi jeune en 2025 ? Bon, il y a des histoires qui rappellent le voyage temporel. Globalement, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Mais oui, c'est compliqué. Mais ça a un sens. Voilà, il y a une explication finale.
C'est un jeu à faire au moins une fois dans sa vie.
Et c'est un jeu où il faut absolument lire tous les codex, tous les petits détails, tous les petits dossiers, tous les petits fichiers. Et il y en a beaucoup. Mais heureusement, quand on a terminé le jeu, en fait, il y a une section entière qui est dédiée à tous ces petits documents, toutes ces petites infos que vous avez accumulées dans l'ordre chronologique. Et ça vous permet de tout relier. Et effectivement, une fois qu'on a relié tous les points, alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai tout compris. Hein. Il y a encore des éléments du scénario où je suis un peu genre dubitatif.
Non, parce qu'il y a des persos qui sont genre... Tu comprends pas leur motivation, tu comprends même pas leur identité même.
Ouais, il y a des persos qui sont super mystérieux. Il y en a que tu joues pas avant très tard dans le jeu, en fait. Tu joues pas les 13 protagonistes immédiatement, il y en a plein qui sont bloqués. Il y a des moments où tu es obligé d'avoir fait une certaine séquence pour pouvoir continuer avec certains protagonistes. Et puis leurs interactions parfois sont vraiment étranges. Tu comprends pas pourquoi tel et un tel sont un petit peu, je vais pas dire ennemis, mais sont pas potes. Alors que derrière, tu as les séquences STR où ils sont en train de parler normalement alors qu'ils sont en train de combattre des aliens. Bon, bref, c'est super intéressant, mais faut s'accrocher un peu. Donc, si vous êtes du genre à pas aimer lire les petits documents que vous trouvez un peu partout dans Last of Us 2 ou dans Red Dead Redemption 2, bah, ça va peut-être pas trop vous plaire parce qu'il faut un peu s'accrocher. Mais le jeu est tellement beau. Il est tellement beau. Alors, pas forcément les séquences STR, mais les séquences STR réussissent l'exploit de te montrer une ville entière en train de se faire ravager par des milliers d'aliens avec des dizaines de missiles dans tous les sens et de rester lisible. Et je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire là-dessus. Mais sur les séquences, jeux d'aventure, point and click, visual novel, c'est tellement beau. Alors, c'est dans un style très manga, très animé parce que Vanillaware, mais avec en plus des effets de lumière. Dans un premier scénario, en fait, on est dans une salle de classe avec un soleil couchant. Il y a des rayons lumineux dans tous les sens. Et si, comme moi, vous avez modé votre Switch Lite pour mettre un écran OLED dessus, c'est absolument magnifique. Donc voilà, visuellement, c'est un régal. Et dans l'écriture, c'est vraiment super passionnant aussi. Donc, j'ai passé un excellent moment. Et puis, les séquences STR, même si elles sont très faciles, te donnent l'impression d'être super fort au STR. Donc, ça m'a aussi... Ça m'a aussi donné un peu de plaisir de ce point de vue-là. Donc voilà, toi, Daniel, je pense que tu avais aussi beaucoup apprécié le jeu à l'époque.
Oui, c'est super. Et c'est un jeu à faire au moins une fois, quoi.
Voilà, donc c'est disponible sur Switch. Je crois qu'à l'origine, c'est un jeu Vita, non ?
Non, c'est un jeu qui aurait dû être sur Vita, mais en fait, il est sorti sur...
Sur PC, sur Switch et PS4
Sur PS d'abord, et il est sorti sur Switch après.
Donc voilà, 13 Sentinels Aegis Rim, c'est un jeu qui est maintenant assez ancien, donc vous pouvez le trouver à pas cher.
Attention, si tu veux le trouver en version...
En version boîte, alors ça a peut-être monté cher.
En version disque, il y a des versions boîte qui commencent à un peu coûter cher. Mais bon.
Ouais. Non, moi, je l'ai pris en démat. Hein,
mais écoutez, en démat, il est en promo régulièrement. Et merci Atlus de faire encore des jeux un peu ambitieux. Et moi, je vais recommander un jeu aussi.
Bah vas-y, et j'aurai une deuxième petite reco. Vas-y.
Sinners, ok, d'accord.
Non, jeu vidéo encore, je suis à fond.
D'accord. Et moi, je vais recommander un jeu vidéo sur lequel j'ai décidé de passer mon stream d'anniversaire, puisque figure-toi qu'on enregistre on arrive au jour où, ça y est, je prends un an de plus.
Ouais.
Et du coup, j'ai décidé de passer ça sur Fantasy Life. Qu'est-ce que Fantasy Life? C'est un jeu, à mon avis, culte, puisque c'est un de mes jeux préférés sur 3DS. C'est un jeu de Level 5, à l'époque où Level 5 avait beaucoup d'ambition et faisait plein de jeux.
Ouais. C'est un jeu qui est fréquemment nommé dans les joyaux méconnus de la 3DS, Fantasy
ouais.
Life.
Et j'adore Fantasy Life. Malheureusement, il est passé par la case iOS version Fantasy Life 2 et ça a un peu fait tomber la licence dans l'oubli. Mais voilà, et là, il revient à la fois sur PS4, sur Switch, sur PC, même sur Xbox, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même version, mais en version ultra. C'est-à-dire, tout est mieux fait. Vraiment, tout est mieux fait. Tout a été vraiment repensé. C'est un jeu qui a une longue gestation. Il y a plus d'histoire, mais en même temps, t'es aussi libre de faire ce que tu veux. Il y a plus de jobs, mais en même temps, t'as un canasson si tu veux aller plus vite. Tout a été repensé. Par exemple, ça ne bouffe plus d'endurance de courir, et ça, c'est très important dans un action RPG. Et il faut savoir que c'est un jeu qui est, en fait, à la base, le croisement de deux jeux différents. C'est un jeu qui devait s'appeler True Fantasy Live Online, et c'était un MMORPG que Level 5 avait prévu de sortir sur Xbox. Xbox, première du nom, hein, tu vois.
La toute première, ouais.
Et finalement, là, ça ne s'est pas fait. Et c'est un secret de polichinelle, mais avec l'argent du développement, ils sont devenus méga bons en cel shading, ils sont allés taper à la porte de Square Enix, ils ont dit, on vous fait Dragon Quest 8, regardez notre techno.
Ouais, ouais, ouais.
Et effectivement, ça a cartonné. Mais le concept, c'était un jeu en ligne où chaque action que tu fais augmente ton expérience. Et c'est un truc d'ailleurs qui sera repris dans FF14. Beaucoup de gens disent, ah, c'est marrant cette gestion de l'expérience, on dirait FF14. Eh ben, ils croient pas si bien dire, en fait, FF14 s'est inspiré de ça. Et là, t'as aussi ce truc qui fait que si tu vois un arbre et que tu prends ta hache pour couper l'arbre, tu vas instantanément passer bûcheron et tu vas clac clac, tu vas gagner de l'XP. Tu vas être mineur, clac clac clac, tu vas gagner de l'XP. Tu vas gagner de l'XP pour chacune des choses que tu vas faire. T'es menuisier, crac crac crac, tu scies un bout de bois, tu vas devenir meilleur à ça. T'as une aiguille, hop, t'es couturier, hop, t'as couturier. T'as plein de jobs comme ça, essentiels dans la vie d'un RPG Heroic Fantasy. T'as couturier, t'as forgeron, bien évidemment, t'as alchimiste, et il y a de nouveaux jobs qui sont artistes, donc tu peux devenir peintre, et je crois que tu es agriculteur, finalement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, vraiment, il me manquait plus qu'il y a un JRPG qui fasse encore une fois de plus de l'agriculture.
Mmh.
Mais c'est absolument génial, et surtout, t'as des jauges à remplir de partout, t'as des exigences pour augmenter ton job et tout, et en fait, t'es pris dans le jeu, c'est vraiment un truc ultra prenant. C'était un jeu génial à la base, mais là, ils en ont fait un truc vraiment extra. Je pense que c'est un des jeux de l'année pour moi, hein, clairement. Et ils l'ont fait, en plus, il est beau, il n'y a pas de bug, et vraiment, il est propre. Il n'y a pas de problème, comme par exemple, quand il est sorti sur 3DS, il fallait attendre une mise à jour pour pouvoir jouer en ligne, tu vois. Pour pouvoir jouer en multi, alors que c'est l'essence de ce jeu, c'est de pouvoir jouer en multi, puisque ce jeu, en fait, a failli être un peu DQ9. Puisque, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont proposé un jeu DQ9, un action RPG, Square Enix leur a fait « Mais on veut un RPG à l'ancienne », ils sont revenus à un RPG à l'ancienne. Et du coup, ils avaient toute cette technologie, encore une fois, ils se sont dit « On va le faire notre propre jeu », et heureusement que ça fonctionne, ça se vend très très bien, alors pas autant que Clair Obscur, avec qui va passer les 70 millions de ventes d'ici deux jours.
Ouais.
Mais par contre, ça se vend plutôt bien. Il a fait 500 000 en worldwide en deux jours, ce qui est vraiment très très bien, parce que je pense que ça va remettre du beurre dans les épinards de Level 5. Voilà, je vous conseille vraiment Fantasy Life Online. Non, il s'appelle pas Fantasy Life Online, pardon. Il s'appelle Fantasy Life.
Fantasy Life.
ouais. Dans sa nouvelle version. Et c'est vraiment un jeu génial. On peut jouer en multi, en ligne. On peut jouer à deux avec, si on peut donner la manette à son fiston, si vous voulez jouer à deux. C'est vraiment très, très bien. Et c'est calibré pour les enfants. C'est pas non plus une difficulté très agressive, mais en même temps, elle est très c'est graduel. On peut, vous aurez pas le même sentiment que quand vous jouez à Last of Us 2, ça, je peux vous le garantir.
Alors, justement, moi, tu parlais de jouer à deux. Je ne vais pas recommander Blueprints ni Clair Obscur Expedition 33, qui sont les deux jeux de l'année qui sont sortis consécutivement là, à 3 semaines d'écart, puisque j'ai joué à aucun des deux, en fait. Non, j'ai joué à Split Fiction. Est-ce que ça te parle, Split Fiction, Daniel ?
Oui, c'est le jeu à deux de Fares.
C'est le jeu coop de Hazelight, donc de Joseph Fares.
J'ai croisé son frère à Cannes.
Ah d'accord, après donc A Way Out et It Takes Two, Split Fiction, c'est leur nouveau titre qui en fait, j'ai joué à aucun de leurs précédents jeux. Je suis en train de faire It Takes Two avec une copine après avoir fait Split Fiction, et c'est très intéressant en fait de voir à quel point tout était déjà dans It Takes Two, mais ça a été polished, comme on dit. Ils ont appris plein de choses quand ils ont fait It Takes Two et j'imagine A Way Out. Et Split Fiction, c'est vraiment, je dirais, la forme finale. C'est le produit le mieux fichu en matière de coop auquel j'ai jamais joué de ma vie. Évidemment, Hazelight, c'est vraiment leur spécialité. C'est, je pense qu'il n'y a personne qui leur arrive à la cheville pour faire des jeux coop, en fait. Tout simplement. Split Fiction, c'est incroyable. Alors, l'histoire en elle-même peut paraître un peu simplette. Globalement, c'est une société d'édition qui invite de jeunes auteurs et autrices à venir. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement quel était le prétexte pour les faire venir. Et en gros, ils leur présentent une machine incroyable. Et je ne veux pas trop en dire, mais globalement, on peut voir dans l'écriture de ce jeu une critique de l'IA générative. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé d'y voir. L'IA générative qui donc pille des milliards d'œuvres et qui ensuite te ressort un gloobie-boulga pré-mâché dégueulasse, de plus en plus réaliste, tristement, malheureusement, de toutes ces œuvres qui ont pu être pillées par la boîte d'IA. Et donc Split Fiction, en quoi ça consiste ? Eh ben, on a deux héroïnes. Alors il y en a une, c'est Mio, et l'autre je ne me souviens plus son nom. Et il y en a une,
je me souviens plus non plus,
qui est plutôt branchée. As-tu y a joué ?
Ouais.
Ah, et bon, bah écoute, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer ce que je dis. Il y en a une qui est plus branchée SF et une qui est plus branchée fantasy. Et en fait, elles ont des caractères plutôt différents, mais elles sont obligées de devenir alliées de circonstances pour sortir d'une situation dans laquelle elles se sont mises toutes les deux. Donc ça rappelle évidemment It Takes Two, parce que It Takes Two, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire, qui se retrouve dans une situation pas banale et qui sont obligés de coopérer pour s'en sortir. Et ben là, on prend les mêmes, on recommence, sauf qu'on a ce pitch donc de machine qui doit générer des livres. Mais alors, ce qui est vraiment incroyable dans Split Fiction, c'est pas juste les références aux autres jeux ou à la pop culture, parce que oui, évidemment, il y en a, mais c'est cette intelligence du game design. Ils arrivent dans le jeu, je sais pas si tu as terminé le jeu, Daniel, mais ils arrivent à un moment à faire des trucs, je savais même pas que c'était possible avec un moteur 3D, à te créer un monde où en fait la barre verticale qui sépare les deux joueurs, eh ben ils s'amusent avec, ils en font une barre de séparation de rendu, avec d'un côté un rendu fantasy, un côté un rendu SF, sur des mêmes univers. C'est très difficile à décrire comme ça, mais quand vous y jouez, ça paraît tellement limpide et tellement évident que oui, pourquoi ça s'est jamais fait avant? Je ne veux même pas savoir comment ils ont fait pour programmer ça. Ça a dû être un casse-tête incroyable. Mais c'est rempli de nouvelles idées de gameplay. En fait, à chaque nouveau niveau, tu as une nouvelle idée. Globalement, ça se joue quasiment comme It Takes Two. On a un bouton pour courir, un bouton pour dasher, un bouton pour faire du grappin. Donc ça aussi, ça a été repris. Globalement, il y a les mêmes idées. Si vous avez aimé It Takes Two, il y a vraiment aucune raison que vous n'aimiez pas Split Fiction. C'est excellent du début à la fin. Franchement, j'ai passé, on va dire, une douzaine d'heures pour faire le jeu et toutes les... Il y a des petites missions, des petits niveaux cachés. C'est aussi bourré d'humour. Il y a des passages extrêmement drôles. Donc voilà, Split Fiction. Comme It Takes Two, si une personne possède le jeu, eh ben, une deuxième personne peut y jouer, y compris online, sans payer. Donc ça aussi, c'est une super idée. Et ça peut aussi jouer, évidemment, en local, à deux sur le même canapé. Donc voilà, c'est ma deuxième reco. Daniel, tu as aimé toi Split Fiction?
J'ai essayé, j'ai pas eu le temps, j'étais assez occupé et surtout le problème, c'est que mon partenaire m'a pas suivi. Il faut que je le motive un petit peu.
D'accord.
Et je t'aide. Il a un accent, enfin c'est plutôt moi qui ai un accent. Moi je suis plutôt j'ai l'accent de Paris et lui il a plutôt l'accent du Sud. Et voilà, tu peux t'imaginer de qui il s'agit.
Ah, je pense que je vois bien.
Mais on l'embrasse, j'espère qu'il nous écoute, je crois qu'il nous écoute.
On lui fait une bise.
Et on l'embrasse très 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 fort, et vas-y.
On lui fait une s-bébise.
Je veux finir ce jeu.
Franchement, tu as essayé de faire toutes les missions cachées aussi, parce qu'il y a des passages vraiment bidonnants. Quoi.
Moi j'ai vu la saucisse. Voilà.
Ah bah alors, la saucisse, honnêtement la saucisse, j'ai pleuré de rire du début à la fin en fait.
C'est pique, ouais.
C'est tellement de bonnes idées que voilà.
Benji, on en a fini pour aujourd'hui.
Ouais.
La phrase rituelle, merci de nous avoir écoutés. La phrase rituelle, c'est de retrouver After Eight surtout After8.fr et sur toutes vos applis de podcast.
Et un épisode garanti sans spoiler. Et alors ça, ouais. Honnêtement, on pourra le mettre dans le titre.
On a slalomé quand même.
Ouais, mais on s'est bien démerdé, je pense.
Ah, sauf je suis surpris pour Tom Cruise qui... Non, je déconne pour toi.
Non, dis rien, je l'ai pas vu.
Bien entendu, on remercie tous les gens qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU et qui nous permettent de propulser ce podcast dans vos oreilles et de continuer After Eight. On s'excuse un petit peu pour les petits délais qu'on a eu de production, mais c'est parce que tu étais affairé aussi. Entre autres, tu étais affairé, moi j'étais occupé.
J'étais affairé sur la moto de qui déjà, voilà. Rappelons-le, la saison 2 est disponible.
Mais maintenant, back to the good part, on revient sur After Eight.
On en a terminé.
On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Gros bisous.
Bon, écoute, j'espère que ça a pu enregistrer correctement.
Ouais, je vais couper.
J'ai pas bougé d'un pouce. On embrasse Baptiste.
Bisous, Baptiste.
J'ai pas bougé d'un pouce. J'espère que ça a bien capté.
Honnêtement, j'ai pas entendu de saturation spéciale, donc on espère.
Ouais, écoute, j'espère.
Allez, je coupe.
Bisous. Aïe.
Une production RPU.